Frédéric Bedos, moi j'ai lu votre livre « La petite fille à la balançoire ». On se rend compte que vous avez grandi dans une famille pas comme les autres. Alors qu'est-ce que vous ont appris et apporté Marité et Michel ?
Marité et Michel, c'est mes parents adoptifs et ils m'ont adoptée et sauvée, moi, mais pas seulement moi. En fait, on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier et c'était que les enfants inadoptables, ceux dont personne ne voulait, soit parce qu'ils étaient trop âgés, soit parce qu'ils souffraient de multiples traumatismes, parce qu'ils avaient déjà eu des vies chaotiques, soit parce qu'ils souffraient de handicaps très lourds, trop lourds. Et puis parfois, c'était un petit peu tout ça à la fois. Et donc finalement, le message principal qu'ils nous ont transmis, c'est d'abord un message d'amour, qui veut dire que tout est possible, que c'est jamais joué d'avance. Finalement, avec ce mot inadoptable, il y avait une espèce de condamnation sur nos têtes. En gros, pour cet enfant-là, c'est déjà foutu, ou alors ça va être très compliqué. Et eux, ils ont posé un autre regard sur chacun de nous, un regard d'espérance, un regard qui finalement nous a donné notre chance. Et ce qui est très beau aussi, c'est que je trouve qu'on est dans une société qui prône beaucoup la tolérance, comme si c'était la valeur principale, le graal à atteindre, alors que quand on y pense, qui rêve d'être toléré ? On rêve tous d'être aimés. Et si mes parents s'étaient contentés de nous tolérer sous leur toit, on n'aurait pas été sauvés. Donc ils nous ont aimés et c'est ça qui nous a sauvés.
C'est joli ce que vous dites parce que c'est vrai que les mots ont quand même une importance forte dans notre société. Il y a beaucoup de mots qu'on emploie sans finalement vraiment réfléchir sur leur sens. On parlait tout à l'heure pendant la conférence de presse de fraternité. Vous, c'est un mot par contre qui vous fait écho, celui-ci ?
Oui, la fraternité. Et puis moi, j'aime beaucoup parler de la grande famille humaine. Et c'est très intéressant ce mot famille, parce que pour le coup, voilà, mon enfance fait que j'ai effectivement été élevée dans une famille un peu particulière. Et quelle est finalement la qualité première de cette famille ? C'est qu'elle n'a pas l'esprit de famille. Ma mère disait toujours, mais il ne faut surtout pas avoir l'esprit de famille, c'est terrible, ça veut dire l'esprit du clan. Ma famille d'abord, on verra après pour les autres. Eux, c'était pas possible ça. Ça veut dire que leurs bras étaient toujours grands ouverts à ceux qui avaient besoin d'être accueillis. Et c'est ça finalement la famille. C'est ceux qui vous accueillent, qui vous ouvrent les bras et qui vous accueillent. Là où vous pouvez vous réfugier, quel que soit votre état, quel que soit aussi vos qualités, vos défauts, c'est pas ça le problème. À un moment, on a tous droit à la vie. Et pour pouvoir vivre, il faut pouvoir être accueilli, protégé quelque part, trouver un endroit où se nicher.
Vous dites ma mère, mais finalement vous avez deux mères. Donc vous dites maman pour les deux ?
C'est vrai, j'ai deux mamans parce qu'il y a ma maman adoptive, donc Marie-Thérèse, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir ma maman biologique qui s'appelle Jeanne. Le seul souci de ma maman biologique, c'est qu'en fait elle était trop fragile pour pouvoir vraiment m'élever pleinement. On a découvert peu à peu qu'elle avait des problèmes psychiques puis psychiatriques. Et pour autant, bien sûr, c'est ma maman chérie parce qu'elle m'a non seulement donné la vie, mais énormément de tendresse tant qu'elle a pu. Peu à peu, sa maladie s'est aggravée, mais tant qu'elle a pu, elle m'a donné cette tendresse. Et la tendresse qu'on reçoit quand on est tout petit, c'est une source d'énergie, de dynamisme incroyable. Et moi, je sais faire la différence parce que la plupart de mes frères et sœurs ont été abandonnés à la naissance. Et donc je sais à quel point c'est une amputation terrible que l'on garde comme ça tout au long de sa vie. Il faut des trésors de tendresse pour pouvoir se relever de cela. J'ai une fille qui a 23 ans aujourd'hui, que j'aime de tout mon cœur, dont je suis très très fière. Et là où je suis très heureuse, c'est que je vois qu'elle aussi, à son niveau, elle essaye de vivre l'amour aujourd'hui. L'autre jour, elle m'a appelée en me disant, tu vois, elle vit à Londres aujourd'hui. Et elle m'a dit, avec une copine, on a l'intention de passer le week-end à Calais pour aller aider les migrants. Est-ce que tu as des plans ? Voilà, j'adore. Je trouve ça génial.
Écrire un livre sur sa vie, ça doit faire un peu peur, non ?
C'est clair, moi je me suis jamais dit, tiens, si j'écrivais un livre sur ma vie, on m'a mis la pression, on m'a forcé. Il faut dire que, voilà, quand j'ai lancé le projet Imagine, j'ai commencé en évoquant l'histoire de ma famille adoptive. Je ne suis pas du tout rentrée dans les détails de ma vie personnelle. J'ai juste dit, voilà, mes premiers héros sont mes parents. Et j'ai juste évoqué ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que les maisons d'édition sont venues me voir en me disant, vous avez une histoire qui est porteuse d'un message d'espérance tellement fort que vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. Alors ça m'a travaillé, j'ai résisté pendant longtemps, hein, pendant plusieurs mois, voire plutôt même des années. Et puis, ils ont eu raison de moi.
En fait, vous étiez un petit peu, on va dire, à l'apogée de votre carrière dans le show business. Est-ce qu'à un moment, il y a eu un ras-le-bol ? J'en ai marre de superficialité, de ce monde-là. J'ai envie d'autre chose.
Pas du tout. J'ai pas eu de ras-le-bol parce que je faisais des belles émissions et donc je ne renie rien, je ne regrette rien, j'ai appris plein de choses et j'ai fait plein de choses, j'ai voyagé dans le monde entier, etc. Simplement, à un moment, j'ai eu un rendez-vous avec moi-même. Finalement, le projet Imagine, c'est le puzzle de ma vie. C'est d'un côté mes compétences professionnelles, je suis une femme de médias, et de l'autre, toutes ces valeurs de mon enfance qui sont remontées à la surface. Et donc, d'un coup, je me suis dit, mais finalement, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est du journalisme, mais avec espérance, parce que ça fait la différence. Et notamment en faisant le portrait de toutes ces personnes du monde entier qui font des choses extraordinaires, qui vraiment se sont levées, se sont mises debout face à des problématiques très concrètes et ont réussi à mettre en place des alternatives, des solutions qui fonctionnent. Et quand on voit les résultats, on est juste bluffé et surtout on a un effet de contagion, on a un effet miroir. Ce sont des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein. Et donc, ils nous montrent à quel point tout est possible. Et c'est ça le message du projet Imagine. C'est marteler ce message de tout est possible et surtout eh bien, que le monde nous appartient et qu'il faut absolument le réaliser. C'est dans nos mains. C'est comme ça qu'on changera le monde. Chacun, chacune, en se levant de notre fauteuil et en essayant chaque jour de faire du mieux qu'on peut. Ça ne viendra pas d'en haut, ça ne viendra pas des puissants de ce monde, ça ne viendra pas des politiciens. Ça viendra de nous et c'est comme ça que c'est beau.
Et concrètement, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je me comporte au quotidien? Qu'est-ce que je fais pour être dans cette tendresse dont vous parlez?
Alors je crois que ça veut dire d'abord et avant tout se positionner à l'intérieur de soi, dans son esprit, dans son cœur, dans sa volonté. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir. Et moi je crois qu'en fait, c'est le seul vrai défi, c'est vouloir être heureux. Et la clé du bonheur, c'est quoi? La clé du bonheur, c'est d'aimer. On est fait pour ça, c'est notre ADN. Et c'est pas du tout bisounours ce que je dis, c'est pas du bon sentiment, c'est très concret, parce que finalement la vraie révolution c'est celle de l'amour. Et on l'a très peu essayé, or pourtant je pense que ça vaudrait vraiment le coup. C'est-à-dire que l'homme, quand il est solitaire, quand il vit dans son coin ou quand il vit que pour sa pomme, ben, il est malheureux, tout simplement, parce qu'on est des animaux sociaux, on est des êtres sociaux, on a besoin de vivre avec les autres, et on crève de solitude. Et quand on regarde, eh bien, le monde crève de solitude, le monde crève de manque de partage, le monde crève de manque d'amour, finalement.
Et finalement, le monde crève aussi de s'être coupé avec cette nature. Quelque temps, il y a Pierre Rabhi et Jean-Marie Pelt qui sont venus aussi, et ils parlaient de l'importance de l'alliance plutôt que la concurrence.
Bah, c'est clair que l'inspiration, elle est multiple. La vie s'exprime de multiples manières et il y a vraiment des choses merveilleuses. Mais faut-il encore avoir encore les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour les voir, pour les entendre? Et aujourd'hui, nous vivons dans un brouhaha permanent où finalement, on nous parle beaucoup de divertissement. Moi, j'aurais tendance à dire, est-ce que c'est pas plutôt de la diversion?
C'est-à-dire pourtant, que vous y avez participé.
Oui, j'y ai participé, je pense en faisant des choses de qualité, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut quand même pouvoir avoir un peu de temps pour aller regarder à l'intérieur de soi et écouter, se mettre à l'écoute de la petite voix intérieure qui nous appelle vers le meilleur.
Et dans ce monde justement du show business, de la télévision, des médias que vous avez côtoyés, vous êtes nombreux comme vous à vous poser cette question?
Je ne sais pas si on est nombreux, j'essaye de faire moi selon l'appel de ma vie, c'est-à-dire à un moment, voilà, j'avais rendez-vous avec moi-même, j'ai identifié que ça devait être ça ma mission. J'avais pas d'argent, pas d'équipe, pas de matos, mais j'avais le cœur qui bouillonnait, donc j'ai foncé. Ce qui veut dire qu'à un moment, il faut risquer être soi-même, il faut risquer ce rendez-vous avec soi-même, et il faut risquer de tout perdre pour tout gagner. Parce que finalement, je crois qu'on vit dans une grande illusion, quoi. L'illusion de la toute-puissance, l'illusion de la possession, etc. En vérité, les vrais bonheurs sont dans des choses très très simples. Et le vrai vrai bonheur, encore une fois, c'est de pouvoir aimer, c'est de pouvoir partager. Vous savez, Oxfam a sorti ce chiffre hallucinant, vertigineux. 67 personnes dans le monde possèdent à elles seules plus de la moitié de la richesse du monde. 67 personnes. Donc ça veut dire qu'encore une fois, ce monde, il y a pléthore pour tout le monde. Mais il va falloir apprendre à partager. Il va falloir apprendre à s'aimer.
Et ça commence dès l'école. Est-ce que vous avez un regard sur l'éducation, justement, aujourd'hui?
Bah ouais, c'est toute la chaîne. Et en même temps, évidemment qu'il faut se pencher sur la jeunesse et tout ça. C'est une évidence, c'est l'avenir. Mais en même temps, c'est vrai que moi, j'aime pas mettre les gens dans des boîtes. J'aime pas m'intéresser qu'aux jeunes, aux vieux, etc. Et les garder chacun dans leur boîte. Je pense que jusqu'au bout, jusqu'à son lit de mort, eh ben, on a la chance de pouvoir basculer dans le camp de l'amour et donc il n'est jamais trop tard. Donc voilà, ce rendez-vous, il est pour chacun de nous, à n'importe quel moment de notre vie. D'un coup, entendre cette petite voix intérieure qui nous dit « Mais finalement, ton avenir, ton bonheur, c'est d'aimer ».
On va voir un film sur l'égalité entre hommes et femmes, qui malheureusement n'est pas encore atteint, ni en France, ni ailleurs. Sur quel front il faut se battre pour en arriver ?
Eh ben, en fait, avec le film, on se rend compte qu'il faut se battre sur tous les fronts. C'est-à-dire que ce film montre non seulement on n'est pas arrivé à un statut d'égalité, mais pire que ça, on recule. Et on recule de façon très significative. C'était la raison pour laquelle je me suis penchée sur ce film, parce que quand j'ai réalisé que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait dit qu'on reculait sur ce domaine-là dans le monde entier de façon très significative, je me suis dit que j'avais besoin de comprendre exactement de quoi il en retournait, quoi. Et j'ai appris des choses incroyables. Que ce soit au niveau géographique, c'est une réalité absolument globale, mais aussi c'est une réalité qui a des conséquences sur tous les aspects de la société, économique, historique, psychologique, culturelle, religieuse. Par n'importe quel bout où vous prenez cette problématique, vous avez toujours le même constat, les femmes sont écrasées. Alors, ça veut dire qu'il y a un grand, grand défi devant nous, mais c'est surtout que ça veut dire que ça nous concerne tous, que ce n'est pas une question de bonne femme ou de féministe, et que le prix à payer est bien trop cher. Donc, il y a une universalité qui est touchée par ce problème. Et donc, ça veut dire vraiment, j'espère qu'avec ce film, eh bien, ça peut éveiller les consciences et donner envie de s'emparer du sujet, tout simplement. Parce que j'ai bon espoir, comme toujours. Moi, je fais du journalisme avec espérance.
Le féminisme, c'est un mot qui est un petit peu critiqué de toutes parts, notamment certains hommes y voient comme finalement un pendant du machisme, hein, donc l'envie d'écraser les hommes. Est-ce que c'est un mot que vous revendiquez ?
C'est clair que si le féminisme c'est pour écraser les hommes, alors je peux comprendre qu'on n'aime pas le féminisme. Mais il me semble quand même qu'il faut raison garder, évidemment que c'est pas ça à la base, et que par contre je peux imaginer que certains se sont un peu perdus en route. Et donc moi c'est vrai que dans le film, j'essaye justement de montrer que les hommes doivent absolument rentrer dans cette bataille avec nous, dans cette bataille de la défense de la femme, parce qu'ils ont aussi tout à y gagner. Et donc finalement, ce qui est beau, c'est qu'on peut être femme féministe et on peut être homme féministe. Et ça, c'est chouette.